Monsieur Lagacé, bonjour.
Bon matin, Monsieur Deschênes.
Commençons, Monsieur Lagacé, avec peut-être une certaine surprise hier, alors qu'on apprenait la démission de Simon Périard comme maire de Saint-Paul-de-la-Croix. On sait que Monsieur Périard, évidemment, vous l'avez côtoyé à la table de la MRC, t'es pas toujours en accord avec vos décisions, vice-versa, il y a eu peut-être quelques prises de bec, on n'était pas toujours là non plus, mais peut-être, quelle a été votre première réaction là, hier quand vous avez appris sa démission?
Ben, j'ai surprise, puis en même temps content pour la personne, parce que quand il avait rentré comme maire de Saint-Paul-de-la-Croix, il m'avait fait part qu'il y avait des ennuis de santé déjà à ce moment-là. Puis j'avais dit que la politique, c'était pas que, comme disait M. Damour, Jean Damour, c'était un sport dangereux. Et j'avais dit d'être prudent. On avait même offert notre collaboration au niveau de la MRC via la direction générale, puis aussi le service juridique pour l'appuyer dans ses démarches. Donc, je dirais que ça... Oui, surprise, mais en même temps, content pour la personne, parce que, vous savez, quand il y a eu son incident, son infarctus cet hiver, ben c'était clair que je pensais qu'à ce moment-là, ça aurait pu être un moment décisif pour penser davantage à sa santé. Bon, quelques mois plus tard, c'est ce qu'il invoque là, puis je respecte sa décision, bien entendu.
Ouais. En termes de politique, comme on dit, comment qualifieriez-vous votre relation avec M. Périard?
Bon, je dirais que c'est une... Vous savez, dans la vie, on peut être en accord ou en désaccord, on peut échanger, puis je pense qu'il y a eu des échanges qui étaient... Il était fait de façon à l'occasion vigoureuse, mais je dirais que c'était, vous savez, le préfet, il incarne ce que les autres membres du conseil de la MRC aussi orientent, puis là-dessus, il y avait une position assez unanime sur la plupart des dossiers pour ce qui est des autres membres du conseil de la MRC.
Oui. Et il dit qu'il représentait également des fois une majorité silencieuse. Ça, est-ce que vous l'avez ressenti?
La majorité
ou peut-être une minorité silencieuse, là. Je peux être allé fort avec la majorité.
Qui représentait ses intérêts, ça, c'est les intérêts de sa communauté, ça, c'est clair. J'ai jamais senti chez les autres collègues, des opinions différentes que celles qui étaient émises. Vous savez, les gens du conseil de la MRC, des conseillers de comté, quand ils émettent une opinion, c'est clair que à ce moment-là, ils émettent leur senti. Puis en dehors de la table, il n'y a pas personne qui émet un senti différent.
Bon, oui. Concernant la CMR, c'est un dossier dans lequel souvent M. Périard là, s'est exprimé, notamment sur sa page de maire à l'époque, qui a été changée hier, puis également. On a souvent parlé des états financiers. Il reste, M. Lagacé, on est encore là aujourd'hui. Je veux dire, les fameux états financiers, je pourrais vous poser une question là-dessus. Comme quoi, à un moment donné, on parlait de dévoiler certains chiffres et présentement, disons que dans les derniers mois, ça a été plutôt tranquille de ce côté-là. On en est où là-dedans?
Bon, le conseil d'administration a reçu les états financiers il y a de cela quelques semaines. Et elles ont été approuvées. Puis, comme j'avais dit à M. Saint-Pierre, si je ne m'abuse, là, en juin, on va d'abord avoir de quelle façon le gouvernement du Québec va répondre à nos attentes. Puis quand on aura l'ensemble de l'œuvre, on sera plus à même d'identifier l'état des lieux.
Bon, oui.
Pour l'instant, je dirais qu'il serait présomptueux de mettre quelque chose sur la table alors qu'on n'a pas encore de réponse de la part du gouvernement du Québec. Mmh.
Entre-temps, M. Lagacé, on a quand même eu de bonnes nouvelles concernant les bacs bruns. Il semble que, disons que c'est en augmentation là, le tonnage pour les matières putrécibles. C'est des chiffres dont nous avons obtenu finalement les informations il n'y a pas si longtemps. Peut-être avoir votre réaction là-dessus. Donc, disons que les efforts semblent porter fruit. Comment vous avez accueilli là, le fait qu'il y a une augmentation présentement?
Ben, je dirais que les citoyens sont davantage... Il y a eu beaucoup de campagnes qui ont été faites, notamment avec Coeco. On se rappelle l'automne passé qu'on avait été, entre autres, avec M. Lebel, du lieu d'enfouissement technique et à la Samer pour, je dirais, voir de visu qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières putrécibles qui n'étaient pas acheminées vers la Samer, puis qu'il y avait aussi beaucoup de matières recyclables qui n'étaient pas acheminées non plus vers Via. Donc, là, c'est clair que ce qu'on se rend bien compte, là, c'est que les messages doivent être répétés, répétés, répétés. D'ailleurs, il y a eu des campagnes qui ont été initiées dans différents médias, dans le vôtre, dans les dernières semaines, parce que on veut sensibiliser encore davantage nos citoyens. Plus on évite l'enfouissement, plus on est, je dirais, en respect de l'environnement, parce qu'il y a moins de production de gaz à effet de serre. Puis c'est clair que c'est moins dispendieux amener des matières traitées par la SEMER que de les enfouir. Donc, on prolonge les cellules du lieu d'enfouissement technique, ce qui n'est pas anodin là, comme coût, là, notamment pour ce qui est de l'opérateur, c'est-à-dire la ville de Rivière-du-Loup. Donc, on est content, on est vraiment content. Des augmentations dans toutes les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup entre 2018 et 2020. Donc, ouais. C'est vrai pour la MRC de Rivière-du-Loup, mais c'est vrai aussi pour les autres secteurs.
Monsieur Lagacé, autre sujet, vous êtes également président de la Région intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent. Il y a un méga projet présentement qui est dans l'air de 1200 mégawatts. On voyait un très bon article également dans le journal La Presse il n'y a pas si longtemps, comme quoi il y avait de nouveaux besoins en électricité chez Hydro-Québec. On voyait également dans ce même article que vous avez rencontré des membres du gouvernement ou souhaité le faire, M. Fitzgibbon, ou en tout cas vous aviez envoyé également le projet au ministre de l'Économie à ce moment-là. Qu'en est-il avec ce fameux projet et est-ce que ça avançait un peu cet été? Puis là, j'y vais avec deux, trois questions en rafale comme ça, mais est-ce que c'est votre un de vos sujets, vos projets plutôt prioritaires présentement?
Bien, c'est clair que quand on parle d'un investissement de 2,4 milliards pour la réalisation d'un projet semblable, et je dirais que ce qui est intéressant par rapport à ce projet-là, c'est qu'il n'y a aucun denier gouvernemental qui serait investi là, pour la réalisation de ce projet-là. Donc, ce serait des deniers via le financement du projet à 70 % aux environs. Donc, l'équivalent de pas loin d'un 1,6 milliards en investissement via le projet, puis le reste, ça serait des contributions via les privés, puis via les MRC notamment. Mais on parle là des deux régions administratives, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, ouais. Les MRC de Lillet et Montmagny. Vous savez, dans le cas de la MRC de Rivière-du-Loup, on parle de 2,3 millions annuels de bénéfices. Donc, c'est extrêmement important. C'est vraiment très, très important. On a écrit une lettre la semaine passée à M. Legault, parce que M. Legault était à Rivière-du-Loup le 15 juillet dernier, puis il nous a dit qu'on ne peut pas venir dans la MRC de Rivière-du-Loup sans parler d'éolien. Puis, il a été, je dirais, il y a eu des propos très intéressants par rapport à l'éolien, en parlant que maintenant, c'était l'énergie la moins coûteuse pour les Québécois et qu'il souhaitait effectivement réaliser des projets à la condition, bien entendu, que les surplus soient derrière nous. Puis il nous disait que ça allait peut-être aller plus rapidement qu'on pensait. Entre autres, en lien, bien entendu, avec les ententes avec le Massachusetts, éventuellement l'État de New York, puis les tarifs préférentiels pour ce qui est des serres qui vont prendre place au Québec pour assurer notre souveraineté alimentaire. Ouais, ouais.
Concrètement, M. Lagacé, la prochaine étape, c'est quoi là-dedans? Parce que, veux pas, c'est un gros projet, là, les citoyens s'y perdent un peu, mais la prochaine étape, ce serait quoi?
Ben, on a demandé, justement, avant hier, là, à rencontrer Mme Proulx, Mme Marie-Ève Proulx, ainsi que M. Jonathan Julien, pour qu'on puisse voir de quelle façon on peut mettre en place, je dirais, les prochaines étapes. De voir, d'abord, est-ce qu'il y a de l'acquiescement de la part du gouvernement du Québec? Vous savez, réaliser un projet semblable, ça ne peut pas se réaliser en chacun des doigts. Là. C'est vraiment quelques années de préparation puis de réalisation. On parlait les premières éoliennes pourraient être mises en place là 2024. Donc, c'est vraiment un projet ambitieux. Quand on regarde les bénéfices pour les MRC, là, on parle de 2 milliards sur 25 ans. Donc, c'est pas anodin comme retour par rapport à l'investissement. Donc, on veut rencontrer Mme Proulx, M. Julien. Puis à la suite, ce qu'on sait, là, c'est les partenaires privés, il y en a plusieurs qui sont prêts à nous accompagner dans la réalisation de ces projets-là. Puis on serait plus à 6,3 sous, là. On serait bien en dessous de cela, peut-être aux environs de 5 sous, peut-être un peu moins du kilowatt. Donc, c'est vraiment une énergie qui serait vraiment intéressante pour les Québécois.
Oui, puis dans le fond, ce que vous souhaitez, c'est que on aille assez rapidement en appel d'offres là, du côté d'Hydro-Québec, c'est bien ça?
Oui, on aimerait ça, effectivement, parce que vous savez, le gouvernement du Québec a demandé des projets de relance économique. C'est un projet qui est ambitieux. On a vu Nicolas Rioux l'impact pour ce qui est de la MRC des Basses pendant deux années. Il n'y avait plus aucun lieu d'hébergement qui était disponible, notamment dans la municipalité ici à côté à Saint-Jean-de-Dieu. Là, c'était, je dirais, chaque parcelle était utilisée pour ce qui est de l'hébergement. Donc, quand on parle d'un projet de 224 MW versus 1200 MW, donc on comprend là, que je dirais que ça ferait du bien à nos hôteliers puis aux gens qui ont de l'hébergement là, pour les prochaines années. Là, ça je suis sûr que ça ferait beaucoup le bonheur.
Oui. En terminant, M. Lagacé, on va parler de la municipalité de Saint-Cyprien. Des citoyens qui nous demandaient quelle était la part de la municipalité dans la bâtisse des pâtes Alpha. Alors, tu sais, les gens se posaient des questions à savoir est-ce qu'il y avait eu un congé de taxe à ce moment-là? Est-ce que, quelle était la part de la municipalité? Et après, la question qui va venir assez vite, c'est maintenant là, que la bâtisse est comme désertée, puis qu'il y a eu évidemment tout ce qu'on sait par rapport aux pâtes Alpha, qu'en est-il?
Oui, bien essentiellement, la municipalité n'a pas donné de dégrément de taxe.
OK.
Dans le fond, c'est une corporation, un conseil d'administration indépendant, qui est un OBNL. C'est sûr que la municipalité s'est portée garante pour avoir un taux d'intérêt le plus intéressant possible pour le financement de l'activité. Ce qui est clair aussi, là, c'est qu'on est rentré en contact avec le CLD de la région de Rivière-du-Loup, avec les ministères concernés, notamment le MAPAC, pour leur dire qu'il y avait un bâtiment qui était là qui était disponible. Il va y avoir des rencontres dans les prochains jours là, avec autant les gens de la direction du MAPAC qu'avec le CLD pour qu'on puisse trouver une vocation supplémentaire par rapport à cela. Vous savez, le bâtiment actuellement, il est intact, là, c'est-à-dire que les unités de réfrigération, ventilation sont en place, ont été achetées par la corporation ici pour pas altérer le bâtiment. Donc, je dirais que ce bâtiment-là, avec quand on parle de souveraineté alimentaire, de favoriser une plus grande transformation de nos produits dans nos régions, ben, je dirais que ce bâtiment-là va certainement trouver une utilisation dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois.
Oui. Juste pour revenir à la prémisse de la question, parce que c'était vraiment une question des citoyens, ça veut dire que la municipalité n'a pas mis d'argent nécessairement là-dedans, de quelconque façon, que ce soit par un congé de taxe, que ce soit par un prêt, que ce soit par...
On n'a pas fait de prêt, mais on est en garantie de prêt auprès des institutions prêteuses pour s'assurer que la corporation ait le meilleur taux d'intérêt possible pour le financement du bâtiment. Mais non, il n'y a pas eu de dégrèvement de taxes.
Mais ça ne se traduit pas par présentement, exemple, que finalement, ça coûte de l'argent aux citoyens, là.
Pas pour l'instant, effectivement.
Pas pour l'instant, c'est ça. C'était une garantie, c'est ça?
Oui, exact.
Voilà. M. Lagacé, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. À la prochaine.
Merci beaucoup, M. Deschênes. Au plaisir.